on commence ce journal avec Bételgeuse, l'étoile la plus brillante du ciel nocturne, perd de sa luminosité.
En astrophysique, on dit qu'elle s'est évanouie. Bételgeuse, c'est une super géante rouge, elle est gigantesque, elle fait 1000 fois le rayon du soleil, 1 milliard de kilomètres de diamètre. Et elle est la candidate la plus proche de nous pour la prochaine explosion de supernova dans notre galaxie. Donc depuis 50 ans, elle est sous haute surveillance, on guette les éventuels signes de son agonie. Depuis 2 mois, les astronomes de l'université de Sydney observent un déclin anormal de sa luminosité. Elle a atteint un niveau qui est 2 fois plus faible que sa luminosité habituelle. C'est la première fois qu'on observe ça, et sur une si longue durée. Est-elle sur le point d'exploser? Il faudra continuer les observations pour en savoir plus, mais il y a déjà plusieurs hypothèses. Sylvie Carby est astronome à l'Observatoire de Paris.
Bételgeuse est une étoile qui est intrinsèquement variable, avec plusieurs périodes. Il y a une période d'à peu près 400 jours qui est due à des pulsations de l'étoile régulières. Et puis, il y a une période plus longue d'à peu près 5 ou 6 ans, dont on pense qu'elle est due à des mouvements de convection dans l'enveloppe de cette étoile. Elle a une enveloppe externe extrêmement étendue, et cette enveloppe est le siège de mouvements convectifs, comme dans une casserole, quand on fait chauffer une casserole, on voit que ça boue et qu'il y a des mouvements de convection pour évacuer la chaleur, en fait. Donc pour évacuer la chaleur dans l'extérieur de cette étoile, il y a ces mouvements de convection gigantesques et il y a une sorte de périodicité un peu dans ce cycle de convection. Et donc du coup, si ces deux cycles de variation qui se mettent en phase à un moment donné par hasard, ça peut donner une variation de luminosité un peu plus accentuée que d'habitude. Donc ça, c'est une possibilité qui est évoquée. Et l'autre possibilité serait que donc Bételgeuse aurait éjecté un peu plus de masse que d'habitude. C'est aussi un stade évolutif où l'étoile éjecte beaucoup de matière. Il y a donc ces pulsations, il y a aussi de la poussière qui se forme dans les parties externes de l'enveloppe de l'étoile, parce qu'elle est suffisamment froide pour ça. Et donc s'il y a une éjection un peu plus massive avec beaucoup de poussière qui se forme dedans, ça pourrait peut-être aussi occulter un petit peu l'étoile et la rendre plus faible. En apparence.
Donc ça signifie pas nécessairement qu'elle est sur le point d'exploser.
Voilà, alors la probabilité est quand même globalement assez faible. On pense que la phase dans laquelle elle est va durer encore 100 000 ans avant qu'elle explose. Maintenant, évidemment, on ne sait jamais. La probabilité n'est pas nulle non plus.
En bref, selon 2 études parues dans Science et Science Advances, l'informatique quantique pourrait fonctionner avec l'électronique classique.
Et pour l'informatique quantique, ce sont de grandes avancées. Les qubits, les bits quantiques, pourraient fonctionner sur des ordinateurs traditionnels. Les chercheurs de l'université de Chicago montrent dans ces études que les qubits seraient compatibles sur des supports en carbure de silicium, des composés chimiques qui sont omniprésent dans l'électronique actuelle. Les qubits seraient également compatibles avec la fibre optique et pourraient donc fonctionner sur de longues distances.
Dans Geophysical Research Letters, la NASA a révélé hier une nouvelle carte de la planète Mars.
Il s'agit d'un atlas de l'eau glacée enfouie sous Mars. Cette carte a été réalisée grâce aux données du spectromètre à rayons gamma des sondes en orbite, le Mars Reconnaissance Orbiter et le Mars Odyssey. Sur cette carte martienne, on voit que sous la plaine d'Arcadia Planitia, des étendues de glace se trouvent à seulement 2 cm de profondeur et dans une zone où des atterrissages futurs sont réalistes. Rappelons que la NASA prévoit d'envoyer des astronautes d'ici 2030. Cette région représente donc une cible idéale. Il reste encore à vérifier l'évolution des réserves de glace en fonction des saisons martiennes.
Et tout au long de la semaine, dans le Journal des Sciences, nous avons parlé du fait que notre corps vieillit en 3 cycles distincts. Il a été question de l'élaboration d'un vaccin contre les maladies intestinales chroniques, de la désoxygénation des océans qui menacent les écosystèmes marins, mais également dans l'actualité des sciences cette semaine, Natacha en ultra bref.
Cette semaine, dans une grotte de Sulawesi, en Indonésie, des archéologues ont découvert la plus ancienne scène de chasse de l'art préhistorique. Une fresque vieille de 44 000 ans. On y voit des figures mi-humaines, mi-animales, en train de chasser des cochons sauvages et des buffles nains. C'est aussi l'œuvre d'art figurative et narrative la plus vieille à ce jour. Le 27 novembre dernier, on faisait la découverte d'un gigantesque trou noir dans notre Voie lactée. Un trou noir de 68 masses solaires, une masse que l'on pensait impossible. Mais de nouvelles études suggèrent qu'il s'agit peut-être d'une erreur de calcul, et notamment dans le calcul de la masse de l'étoile qui gravite autour. Et enfin, depuis 1965, seulement 20 entreprises ont causé plus d'un cinquième de l'acidification des océans. Depuis 1880, nos océans sont maintenant 26% plus acides. Les producteurs de gaz et de pétrole en sont en grande partie responsables. Dans cette liste, on trouve notamment Shell et BP.
Et on passe au journal de la science-fiction, comme tous les vendredis consacrés à la science-fiction. Et on commence ce journal avec une étude parue dans la revue Cell Neuron. Il est possible de contrôler les ondes du cerveau pour améliorer la concentration.
On sait que l'intensité du rythme alpha est liée à la perception et à l'attention visuelle. Par exemple, si vous regardez un écran et que vous faites attention à la partie gauche, vous allez avoir une diminution de l'intensité alpha dans la région du cerveau qui traite le champ visuel gauche et une augmentation dans la zone opposée. Ce phénomène s'appelle la latéralisation de l'alpha. On ne savait pas si cette latéralisation de l'alpha est une signature de l'attention et de la visualisation ou si au contraire, elle participe à la concentration. Les chercheurs du MIT ont donc mené une expérience. Des patients sous électroencéphalographe devaient se concentrer sur des motifs sur un écran. Ils ont appris à contrôler leurs propres ondes cérébrales grâce à un système de neurofeedback. Ruffin Van Rulen est directeur de recherche CNRS au laboratoire CERCO, cerveau et cognition à Toulouse, et au nouvel institut d'intelligence artificielle ANITI.
Alors, le neurofeedback, ça consiste à donner en temps réel un retour au sujet sur sa propre activité cérébrale. Donc ici, dans cette étude, c'est sur la latéralisation de son propre rythme alpha. Par exemple, un type de neurofeedback, c'est plus l'activité cérébrale est intense, plus le stimulus qui est en face du sujet grossit. Et donc grâce à ce retour, en quelques dizaines de minutes, le sujet peut apprendre à contrôler cette activité cérébrale. Donc leur hypothèse, c'était que si l'activité alpha, c'est simplement une conséquence du traitement visuel, alors le neurofeedback ne devrait rien changer à la performance des sujets, alors qu'au contraire, si cette activité alpha contribue effectivement à la perception, à l'attention visuelle, alors le neurofeedback devrait permettre d'améliorer les capacités visuelles, les capacités attentionnelles. Et c'est ça qu'ils ont trouvé dans cette étude. Ce qu'ils ont fait grâce au neurofeedback, c'est qu'ils ont pris deux groupes de sujets. Ils leur ont appris à contrôler la latéralisation de l'alpha, soit vers la gauche pour un groupe, soit vers la droite pour l'autre groupe. Et ensuite, quand ils ont testé ces mêmes sujets dans une tâche perceptuelle, ils ont observé une amélioration des capacités attentionnelles du côté correspondant. Et donc, grâce à ça, ils peuvent conclure que l'activité alpha joue un rôle causal, effectif, dans la perception et l'attention visuelle.
Sur la manipulation des ondes cérébrales, justement, ce sont des essais convaincants ?
Oui, c'est assez convaincant, avec quand même des limites importantes, parce que ça se fait avec une machinerie assez imposante. Donc là, ils l'ont fait dans une MEG, une magnéto-encéphalographie. C'est pas quelque chose qu'on peut appliquer dans la vie de tous les jours, mais dans des conditions de recherche, c'est un phénomène intéressant et qui est convaincant, oui.
Voilà, grâce au MIT, on peut donc se faire pirater les ondes cérébrales, c'est intéressant. Bref, Natacha, en Chine, une première, des généticiens ont réussi à donner naissance à des chimères mi-singes, mi-cochons.
Oui, des cochons OGM, d'apparence normale, mais avec des cellules de macaques crabiers. Les chercheurs ont d'abord modifié des cellules souches de singes pour pouvoir les localiser plus tard chez les porcelets. Ils ont injecté ces cellules souches dans des embryons de porc 5 jours après leur fécondation. Sur les 4000 embryons modifiés, 10 sont arrivés à terme, mais tous sont morts dans les jours qui ont suivi. L'objectif de ces manipulations, à terme, c'est de produire des organes humains, des chimères animal-humains, pour ensuite les transplanter. Mais les auteurs de cette expérience sont sceptiques. Les proportions de cellules singes par organe restaient très faibles. Les détails sont à lire dans la revue Protein and Cell.
Et d'ailleurs, à ce propos, un nouveau film, La planète des cochons, se prépare. Non, La planète des singes, pardon. On ne sait plus. On se trompe maintenant.
Voilà, c'est une dixième version. Une dixième version cinématographique du roman du français Pierre Boulle. Voilà, Disney, qui a racheté la Fox et tout son catalogue, a annoncé un nouveau remake à la réalisation Wes Ball, le réalisateur de la trilogie SF Le Labyrinthe.
Et puis, on poursuit avec des nouvelles du quatrième opus de Matrix. Et
le prochain opus sera réalisé par Lana Wachowski, mais sans sa sœur Lily, avec au casting toujours Neo et Trinity, interprétés par Keanu Reeves et Carrie Ann Moss, et de nouveaux personnages, notamment Jonathan Groff, révélé dans la série The Mindhunter. On n'en sait pas plus sur l'histoire, mais la Warner a annoncé des dates. Le tournage va commencer en février à Chicago pour une sortie en salle le 21 mai 2021.
Et pour conclure, comme chaque semaine par la rubrique des sciences improbables, aujourd'hui, une chouette nouvelle méthode pour enterrer ses morts.
Il s'agit du compostage humain. La société américaine Recompose vient d'inventer donc la première installation de compostage humain. Le projet a été adopté par l'État de Washington. Ça consiste à recouvrir les corps de copeaux de bois et de les enfermer dans des sas hermétiques. 30 jours plus tard, on obtient du terreau. Les familles peuvent ensuite le récupérer et l'enterrer dans la nature. Selon l'entreprise, il s'agit s'agit d'un engrais de très bonne qualité et d'une méthode plus écologique que la crémation ou que les enterrements. Voilà, la société Recompose ouvrira ses portes et ses étuves en 2021.
Qui sait qui a mangé des bonnes tomates du fond du jardin ? Allez, merci beaucoup Natacha. On se retrouve lundi pour le prochain Journal des Sciences.